Bonsoir. Deux sujets sont au centre de notre tribune de la presse de ce soir. Il s'agit des concertations nationales. Dans la plénière d'hier jeudi, il était question de la présentation et validation des rapports des travaux effectués depuis le début de ces assises. Comme deuxième sujet, nous parlerons de la situation sécuritaire à l'est de la RDC. La société civile du Nord Kivu a dit non à la proposition par le président ougandais d'une solution à la burundaise de la crise du M23, c'est-à-dire l'octroi d'une amnistie générale de tous les éléments du M23 pour leur intégration ensuite dans les FRDC. Tels sont les thèmes du débat de ce soir. Trois confrères sont avec nous dans cette émission. Il s'agit de Fidèle Moussango. Il est coordonnateur du journal Le Phare, un quotidien qui paraît à Kinshasa. Bonsoir Fidèle Moussango.
Bonsoir confrère.
Nous sommes également avec Joachim Diana. Il est éditeur du journal La Colombe, un quotidien qui paraît à Kinshasa. Bonsoir Joachim Diana.
Et bonsoir confrère.
Et nous sommes avec Charles Mukendi, rédacteur en chef de la radio-télévision des Bukassai, émettant depuis Mbujimayi au Kassai oriental. Bonsoir Charles Mukendi.
Bonsoir cher confrère.
Bienvenue à tous dans cette émission. La présentation et validation des travaux des concertations nationales effectuées depuis le début de ces assises, ainsi que la situation sécuritaire à l'est de la RDC, figurent parmi les sujets largement commentés dans les colonnes des journaux parus cette semaine à Kinshasa. Écoutons cette revue de presse que nous propose Alain Hirong.
Bonsoir. Commençons cette revue de presse par les concertations nationales. Le Phare informe que dans les rapports finaux des concertations nationales, il ressort que la Constitution ne sera pas charcutée. Le rapport des États généraux du groupe thématique Bonne gouvernance, démocratie et réforme institutionnelle, tant redouté, a réaffirmé dans son introduction l'engagement de toutes les parties à consolider la cohésion nationale et à sauvegarder le pacte républicain, notamment par le strict respect de la Constitution. L'observateur confirme que les travaux des concertations nationales prennent fin ce samedi. À cet effet, le président Joseph Kabila Kabange, initiateur de ces assises, comme à l'ouverture, prononcera le discours de clôture. Une nouvelle architecture gouvernementale en perspective. L'information est à la une du potentiel qui soutient que le dessin d'une nouvelle architecture gouvernementale est tracé par les délégués aux concertations nationales. Ces derniers ont validé le jeudi 3 octobre en plénière les conclusions et recommandations des quatre états généraux. Parlons de la société civile du Nord Kivu qui refuse la solution à la burundaise proposée par le président ougandais pour amnistier le M23 puis l'intégrer dans les FRDC. C'est ce qui reprend l'avenir à sa une. Mais pour Forum des As qui revient sur le rapport sur la RDC au Conseil de sécurité, titre pour Ban Ki-moon, pas d'amnistie pour le M23. Ban Ki-moon a présenté au Conseil de sécurité le rapport synthèse sur la crise de l'Est de la RDC après la réunion d'évaluation de l'accord cadre tenu récemment à New York. D'entrée de jeu, il a rejeté toute amnistie en faveur du M23 dont les actions causent des désastres dans la population civile du Nord Kivu. La référence plus ajoute que l'ONU accuse le M23 d'aggraver la situation humanitaire dans l'est du pays et cite le même rapport. Dans un autre numéro, Forum des As note que Museveni exige l'amnistie pour les rebelles du M23, c'est à tomber à la renverse. En rapport avec l'arrivée massive de 200 familles dans les territoires occupés par le M23, la référence plus relaye une alerte rouge de la société civile du Nord Kivu, 200 familles rwandaises implantées en zone du M23. Le Phare en chérie, arrivée massive des Rwandais à Rutshuru, au dernier comptage intervenu venus ressortir du week-end, l'on signale la présence de plus de 200 familles rwandaises dans la petite localité de Chengerero, à la frontière entre la RDC, l'Ouganda et le Rwanda. L'avenir informe pour sa part qu'avec la bénédiction de Paul Kagame, balkanisation confirmée, 1000 familles rwandaises installées en RDC. Le journal soutient la thèse selon laquelle un énorme doute plane quant à l'identité de ces familles. Si elles affirment être congolaises, les autochtones et les autorités locales affirment qu'il s'agit des réfugiés rwandais.
Fidèle Moussango, je rappelle que vous êtes coordonnateur du journal Le Phare, un quotidien qui paraît à Kinshasa. Vous venez de suivre avec nous cette revue de presse, mais en plus de ces informations traitées dans cette revue de presse, l'actualité cette semaine, c'est aussi la présentation mardi dernier à Bruxelles, en Belgique, du rapport d'audit sur l'aide européenne à la RDC, une aide estimée à 2 milliards d'euros entre 2003 et 2011. Ce rapport qui porte sur l'efficacité du soutien européen au processus électoral électorale, à la réforme de la justice et de la police, à la gestion des finances publiques et au processus de décentralisation, demandent aux Européens d'être plus exigeants à l'égard de leurs partenaires congolais. Et en réaction, le gouvernement congolais estime que s'il y a mauvaise utilisation des finances de l'Union européenne, elle n'incombe pas aux autorités congolaises qui n'interviennent que pour l'inauguration des projets remis clé main. Un petit commentaire par rapport à cette information.
Non, mais écoutez, ce n'est pas une information nouvelle. Nous savions cela, que d'un côté, les torts sont partagés. Mais 2 milliards de dollars entre mars 2003 et maintenant. On aurait remis la compagnie aérienne nationale à flot, avec beaucoup d'avions, pour réduire les prix et créer des emplois. 5 à 6 000 Congolais qui allaient travailler, ça veut dire 50 000 Congolais qui allaient vivre de cette compagnie aérienne. On aurait remis à flot la compagnie nationale de navigation. Nous avons des personnels bien formés dans les écoles supérieures de navigation à haute mer. On aurait peut-être aussi réfectionné beaucoup de routes. 1 milliard, ça fait combien? 1 000 kilomètres. On aurait donc essayé de soupçonner, on fait 1000 km, 200 km ici, 200 là-bas, pour relier les centres urbains de consommation. Et là, on résout le problème de l'exode rural. Les gens ne viendront plus ici parce qu'ils ont le chemin de fer, hein, ils ont la compagnie nationale aérienne. Avec ça, on aurait pu payer quand même plus de 50 locomotives pour la SNCC Lubumbashi, Kasai. Parce qu'une locomotive coûte 1 million de dollars. On aurait pu mettre 50 millions d'euros. On a 50 locomotives. On a fait 10 ans sur le Bas-Congo. Alors, ici, la route du Bas-Congo servirait au voiture de tourisme ou au bus. Mais le chemin de fer pourrait transporter à l'aller comme au sortir des marchandises. Voilà donc les 2 milliards. On aurait pu un impact sur le plan de la réduction du chômage et sur l'économie. Mais on nous dit 2 milliards. Quoi faire? Renforcement de capacité. C'est ça? Des petites colloques ici, un petit Belge vient de Bruxelles, un petit Français, il raconte sa vie, rentre et puis là, ça c'est une blague. Donc, les deux. Je crois qu'il faut demander à nos partenaires de viser, par exemple, les secteurs les plus productifs. Par exemple, le chemin de fer, la navigation aérienne, pour la mer. Et en outre aussi, des écoles. Il n'y a pas assez d'écoles à Kinshasa. Regardez comment les écoles, on en fabriquait autant. À Kinshasa, on peut fabriquer 20 écoles, construire 20 écoles. Et dans la périphérie. Comme ça, les enfants de Mbiz, ils viennent plus au centre-ville. Ils ont des bonnes écoles vers Mbenseke. Et ceux qui sont en Djili, on réduit cette manie de voir tout le monde descendre vers le centre urbain. On aurait eu une compagnie aérienne, compagnie nationale de chemin de fer. On aurait eu en même temps une compagnie maritime. Il ne faut pas qu'on soit le dernier pays avec 40 km de côte maritime, à la fois pas une compagnie maritime parce qu'il y a une magouille ici.
Joachim Diana, je rappelle que vous êtes éditeur du journal La Colombe, un quotidien qui part à Kinshasa. La radicalisation de la grève des infirmiers dans les hôpitaux publics a été largement aussi commentée par les journaux Paris cette semaine à Kinshasa. Un petit commentaire de votre part?
Oui, mais écoutez, j'aimerais mais d'abord dire, c'est comme ça, on vient de dire, il a dit des choses suffisamment graves. Je sais que Fidel Msangou est un journaliste depuis longtemps. Et quand est intervenue la première mesure, c'était d'ailleurs avec son apport, lorsque tous les partenaires extérieurs ont dit ne donne plus l'argent au gouvernement congolais, dès le lendemain de la nuit du 11 ou 12 mai, donc avec les fameux massacres de Lubumbashi. Donc, depuis là, on ne donne plus l'argent au gouvernement congolais. L'aide structurelle n'est jamais revenue. L'Union européenne choisit lui-même les projets, les finances, et met ces gens qui le gèrent. Et on dit que les responsables sont partis. Vous vous souvenez, le ministre de la Santé, qui a appris l'Union européenne à financer avec, je crois, 300 000 dollars, un hôpital à l'Équateur, on va trouver petite histoire en chaume, en puisée et consort. Et comment ça pouvait, ça ne peut même pas coûter 50 000 dollars. Alors là, vous allez dire que le gouvernement congolais a quoi à faire dans tout cela? Tout ce que nous devons faire, nous, surtout la presse qui avons fait avec le massacre inventé, que cette aide aille aux ONG et consort, qu'aujourd'hui nous puissions faire de façon que la véritable coopération revienne.
Mais donc, la grève des infirmiers alors?
La grève des infirmiers, moi je le dis l'autre fois avec la grève de médecins, que la meilleure façon, et d'ailleurs ça sera la meilleure façon d'améliorer les soins de santé dans notre pays, c'est de privatiser tous les hôpitaux, que l'État n'ait plus des hôpitaux à gérer. Comme ça, ceux qui vont gérer ces hôpitaux, que ce soit les églises ou quoi, mais ils vont être rigoureux envers les infirmiers.
Vous
rigoureux
pensez que c'est la solution de privatiser?
C'est la solution, parce qu'aujourd'hui, quand vous allez dans les hôpitaux privés, les infirmiers sont bien payés. Les médecins sont bien payés et les gens qui y vont pour les soins ne se plaignent pas autant que dans les hôpitaux publics. Les hôpitaux publics ne nous amènent que de problèmes.
Mais les hôpitaux publics sont gérés par l'État.
Mais jusqu'à c'est ce que j'ai dit. L'État a montré sur ce point-là un mauvais gestionnaire. Qu'on donne ça au privé, vous allez voir que parce que comment vous voulez un hôpital, je l'ai dit la fois passée, un hôpital de l'État dans lequel on a investi, donc un investissement qui ne rapporte rien, aucune comptabilité. Un premier ministre a fait la ronde des hôpitaux publics ici. Aucune comptabilité, la moindre, ce sont des petits gabelots. Ce qu'on a pris aujourd'hui, on va acheter du sel à la maison et le lendemain on achète d'huile, ainsi de suite. Rien n'entre dans la caisse de l'État. Et comment voulez-vous qu'on continue à améliorer les conditions des médecins? Il faut privatiser les hôpitaux, je pense que c'est la meilleure chose.
Merci Joachim Diana. Charles Mukendi, je rappelle que vous êtes rédacteur en chef de la radio-télévision des Boukassaï émettant depuis Mbujimayi au Kassai oriental. Quelle est l'actualité à la une aujourd'hui en Mbujimayi au Kassai oriental où vous êtes maintenant?
Il y a cette grève des infirmiers qui fait aussi parler de lui, mais je ne comprends pas très bien quand on dit qu'il faut privatiser pour qu'on arrive à la solution. Vous comprenez, on est dans les écoles avec la privatisation, vous comprenez, vous avez vu ce que ça va amener comme niveau depuis qu'on a amené les parents qui payent chaque enseignant, et aujourd'hui on parle de privatiser en fait les soins. Or, ailleurs dans le monde, on voit de plus en plus des pays parfois pauvres, même Nancy, on est en train d'aller vers la mutualisation des soins. Et mais parler de privatiser, je ne comprends pas ce que ça veut dire. C'est que le peuple congolais ne sera plus soigné. Et regardez l'exemple que ça produit dans le secteur de l'enseignement. On a privatisé. Et bon, en fait, il y a une autre actualité qui en fait est plus sensible ici, c'est l'évasion de quelques prisonniers à la prison centrale. On en a abattu un. C'était dans la pluie de la nuit d'hier. C'était vers 2h30 du matin. Et les gens se sont taillés la belle, les prisonniers, ils ont en fait démoli de l'intérieur parce qu'il pleuvait et ils sont partis. Bon, quelques-uns, un a été abattu plus tôt. Et vous comprenez que ça pose là le problème de la sécurisation de ce prison, la prison qui a été construite depuis l'époque coloniale, qui n'était même pas une prison, qui se trouve au centre-ville. Et, en fait, il y a une démission totale de ce côté-là par rapport à la prise en charge des personnes que l'on a mis dedans.
Merci beaucoup Charles Mukendi. Et sans transition, nous passons à notre premier thème de ce soir. Présentation et validation des rapports des groupes thématiques. C'était hier jeudi lors de la plénière qui a réuni tous les délégués dans l'ensemble. Les délégués, bien qu'ayant travaillé en commission, ont penché sur les voies et moyens du rétablissement d'une paix durable. Les recommandations votées ce jour vont aussi dans le sens de la consolidation de la cohésion nationale. Le condensé avec vous, Mimi Ngumba.
Les délégués du groupe 1, soit gouvernance, démocratie et réformes institutionnelles ont convenu premièrement du respect de la Constitution. Dans le souci de la décrispation politique, ils invitent le gouvernement à suivre le dossier judiciaire du sénateur Jean-Pierre Bemba. Ils attendent cependant du président de la République d'agir en faveur de prisonniers politiques dont Coutinho Fernando, Jacques Chalupa, Eugène Diomi et Mouine Donzangui. Une note spéciale dans les conclusions de ce groupe, l'ouverture politique, ce qui est compris par d'aucuns comme une gestion consensuelle de l'État. Au sein du groupe 4, l'accent est mis sur le moyen de mettre fin aux conflits communautaires, sans oublier le rétablissement de l'autorité de l'État sur toute l'étendue du pays. Pour cela, les délégués jugent important d'étendre, de renforcer et d'assainir l'exercice de cette autorité. Aussi, ils encouragent une campagne de sensibilisation sur les valeurs morales et républicaines. En vue de la mise en œuvre efficace de ces recommandations, l'architecture gouvernementale doit refléter les préoccupations, les défis et les enjeux relatifs à la cohésion nationale ont-ils conclu.
Toujours aux concertations nationales, si les recommandations en ce qui concerne le groupe thématique désarmement ont visé une série d'actions considérées comme piliers pour l'instauration d'une véritable paix, le renforcement de l'autorité de l'État et de la cohésion nationale en RDC, fondement d'un développement durable, celle du groupe thématique décentralisation, les conclusions finales se sont apesanties sur la question de l'administration territoriale locales et certaines lois se rapportant au bon fonctionnement des provinces et des entités territoriales décentralisées. Fidèle Moussangou, quelle lecture vous faites des recommandations de ces concertations nationales?
Écoute, il n'y a rien de nouveau sur le soleil. On n'a rien inventé. Tout ça, c'est du connu, là, depuis la Conférence nationale souveraine, en passant par la blague de Sun City où l'on a inclus des Rwandais dans les îles de la République. C'est du connu, il n'y a rien de nouveau. Ici, c'est une conspiration internationale pour éviter d'aborder les questions qui chauffent. Le scandale des élections de 2011, novembre, et la guerre de l'Est. On ne veut pas en parler, la guerre, parce qu'on est plongé là-dedans. Et on nous laisse condamner par-ci, par-là. C'est ça la question. On aurait eu un bon débat. Les gens maintenant auront abattu et démoli tous les arguments du M23, du Rwanda, de l'Ouganda et compagnie. C'est faible. On évite parce qu'on est complice. Alors on nous amène bonne gouvernance, la vaste blague. Qu'est-ce que c'est la bonne? Est-ce qu'on ne sait pas comment que c'est la grande gouvernance? Oh, les conflits interethniques. Quels sont les ethniques qui sont en conflit? Diane va vous dire les ignelés. Et c'était un conflit, ça. Où est-ce qu'il y a des conflits? Où ça? Les conflits interethniques, c'est au Rwanda, au Burundi, il y a tous ces autres qui se bouffent, tous les deux génocidaires. Chez eux et au Congo. Il n'y a pas de conflit interethnique. Moi, je n'ai pas fait. Les ignelés. C'est ça, un conflit interethnique. Les gens qui se disputent des états. La police est redevenue, et la justice locale, on règle la pression. Et ça, les gens doivent se réunir pour conflit entre qui et qui. Encore un gros mensonge, une distraction de trop. Au moment où on apprend que Kagame, lui, il a lâché 200 familles, ce qui est faux. Il a lâché des renforts pour le M23, pour faire chanter le gouvernement. C'est ça. Quel est ce parent là-bas qui peut prendre sa femme et ses enfants, aller les installer dans une zone occupée par une rébellion, traitée de forces négatives? Quel est ce parent-là? Les enfants ne vont pas à l'école? La femme ne va pas au marché? Ils vont vivre comment? C'est des Rwandais qu'on amène. Et puis, le soir, toutes les femmes et les enfants fuient. Les hommes restent des militaires rwandais qui viennent renforcer le M23, qui est en perte de vitesse et qui est déconsidéré même. C'est ça, en fait, la réalité. Alors, qu'on nous a... ici, c'est une distraction. Alors, on nous distrait ici, et là, au Rwanda, on fait un coup.
Joachim Tian, certains délégués de l'opposition issus de la thématique gouvernance et réforme institutionnelle proposent notamment la gestion consensuelle de l'État pour renforcer la cohésion nationale, ce qui veut dire, en d'autres mots, la mise en place d'un gouvernement d'union nationale. Et celui-ci comprendrait en son sein les délégués de l'opposition, de la majorité, ainsi que de la société civile. Nous voulons savoir, selon vous, quelle pourrait être à ce stade l'opportunité d'un gouvernement d'union nationale?
Oui, mais écoutez, c'est étonnant quand même que les mêmes qui demandent le gouvernement d'union nationale, les mêmes disent qu'on ne change pas la constitution. Jusque là, je me pose la question, le gouvernement d'union nationale va être mis en place sur quelle base? Le gouvernement d'union nationale sera mis en place sur quelle base si on ne revoit pas la constitution qui, aujourd'hui, dit que le gouvernement est issu de la majorité et ce gouvernement répond de la majorité et le gouvernement de la majorité parlementaire. Et aujourd'hui, on va mettre les gens qui, et ceux qui n'ont pas participé aux élections et ceux qui ont échoué et tout le monde, on les met ensemble. D'accord, ok. Il semble que si c'est le prix à payer, on accepterait de le payer. Mais on ne paye pas les prix sans conséquence. On ne paye pas les prix sans conséquence. Alors, à ce moment-là, on devrait aller jusqu'au bout de la logique, nous dire si le mandat dans lequel tout le monde va se retrouver, c'est encore le mandat que l'AMP et alliés avaient reçu aux élections de 2011. Si on doit partager le pouvoir avec tout le monde, c'est que le mandat est annulé. En 2006, on repart à zéro. Ce qu'on va faire d'ici 2016, ça sera une transition, on doit repartir à zéro. Donc vous ne pouvez pas dire une chose ou l'autre. Et je suis un peu surpris que la majorité sur ce point se soit mise seulement à gober, à gober, à gober, à gober. Et on dit peut-être que non, voyons, après on les prendra. Lorsqu'on va évoquer ce que moi j'évoque, on dira, ah non, voilà, on refuse d'appliquer les recommandations de concertation nationale. Moi je pense qu'on devrait se dire maintenant, d'accord, gouvernement d'union nationale, gestion consensuelle, mais aussi ce mandat n'appartient plus à personne. On l'annule et qu'en 2016, on repart à zéro.
Charles Mukendi, l'un des objectifs de ces concertations nationales, c'était de recréer la cohésion nationale au sein de la population congolaise. Mais au stade actuel, pensez-vous que ce pari est gagné lorsqu'on sait que certaines grandes figures de l'opposition ne sont pas présentes dans ces travaux?
En tout cas, pas. On ne peut pas penser qu'on a atteint ce pari-là. C'est très difficile. Il y en a déjà qui parlent de vraie concertation après des concertations parce qu'on n'a pas certaines grosses calibres de l'opposition ne se sont pas retrouvés là-bas. Et il y a même plus. Vous pensez que les différends à l'Est, là, avec le M23, c'est réglé à entendre ce que les chefs de délégation du gouvernement disaient que, en fait, on nous a amenés dans une histoire pour nous ridiculiser en quelque sorte. Et tout ce qu'on fait là, c'est en fait, si ça se termine, qui est là, en tout cas, c'est une manière de nous faire ridiculiser.
Oui, vous avez suivi tout à l'heure les propos du confrère Diana par rapport au gouvernement d'Union nationale tel que proposé en fait par certains délégués au sein des concertations nationales. Que pensez-vous en fait de cette proposition?
En fait, on a entendu des salves d'acclamation. Les gens ont aimé cette histoire d'établir ce qui était dans les concertations et on voit que c'est l'objectif pour lequel la plupart des délégués sont allés là-bas. Ils attendent de pied ferme ce gouvernement d'ouverture ou comment on peut appeler machin. Bon, mais est-ce que cela amène l'ouverture vers la population? Il y a toujours une cassure entre la population et ce gouvernement fait à Kinshasa. Et même si on mettait en place un gouvernement aujourd'hui avec ses concertateurs, certainement que le peuple ne trouve pas son compte. Et c'est là, c'est visible. Mais pour l'intérêt des gens qui sont allés là-bas, parce qu'ils nous ont acclamé quand on a prononcé le mot gouvernement d'ouverture, et il y avait des acclamations parce qu'ils attendaient, c'est leur attente. Tout le monde est allé pour se retrouver et non pas pour l'intérêt de ce pays.
Oui, Fidel Moussango, Joachim Diane a dit que ce mandat présidentiel tel que ça se déroule n'appartient plus à personne. Mais qu'est-ce que vous pensez de cela?
Oui, il n'a pas tort, il a raison, il est de la famille, il comprend le complot qui se pose. Tu sais que dit Diane est vrai. Si on dit non, au gouvernement national, il faut changer les constitutions, qui va accepter ça? Ou on dit, bon, les mandats des deux ans de Momo de Kabila là-bas sont annulés. Alors nous faisons une gouvernement national pour aller aux élections. Qu'on laisse Kabila avec son régime. Et en 2016, monsieur, au revoir. Adieu. On se verra au ciel. Qu'il s'en aille. Comme ça, il y a une nouvelle classe politique qui prend le pouvoir et qui va améliorer les conditions de vie des Congolais et terminer cette fausse guerre de l'Est. Parce que, pourquoi changer Matata? Et qui va le remplacer? Pour faire Kengo. Vous voulez Kengo Premier ministre? Mais nous l'avons connu comme Premier ministre. On sait là où il a mis le pays. Et aujourd'hui, il dit qu'il est opposant. Il s'oppose à quoi? Vous avez vu un opposant qui va avec un groupe des amis pour dire on étudie comment les résolutions, puis on remet ça au grand chef. Ils sont pas opposants. Donc, il y a une conspiration. Et Diane a raison, parce qu'il connaît, il est de la maison. Il connaît ses amis là-bas. Et moi, je le sais, moi, j'ai des amis et des frères là-bas. Voilà ce qu'il cherche maintenant. À une sortie pour que Kabila dit, bon, les deux années, moi, je suis senti ne pas bien, nous avons fait et puis, ils vont faire un truc, c'est ce qu'ils cherchent. Alors, les gens sont vigilants pour dire, pas question, pas de gouvernement. Ce qu'ils demandent, ça, c'est des faux opposants. Et ils veulent se perpétuer. Les vrais opposants ne sont pas nous, c'est une mascarade d'une. Donc c'est un non-événement. Oui, Fidel, mais nous voulons 2016.
Fidel, mais si ces concertations n'ont pas atteint leur objectif, qu'est-ce que vous aurez proposé comme sortie de crise pour la RDC?
Papa, ceux qui parlent de la cohésion, ils savent pourquoi il n'y a pas cohésion. Ils savent. C'est la tricherie, le scandale de novembre 2011. C'est ça le problème. C'est cette affaire de fausse guerre à l'Est qui entretient, qui procure des millions de gens ici. Alors maintenant, vous voulez la cohésion? Oui, mais revenons à la légalité des urnes. Vous voulez la cohésion? Arrêtez cette affaire de l'Est. Et puis, les peuples vont se retrouver. La cohésion, c'est régler cette fausse guerre de l'Est. La cohésion, c'est revenir à la légalité des urnes. Ça, la cohésion. Toutes ces histoires-là, tralala, à gauche, à droite, c'est la vaste comédie.
Oui, Joachim Diana, qu'est-ce que vous aurez proposé comme piste de solution par rapport à la crise congolaise si jamais, en fait, ces concertations n'ont pas atteint leur objectif?
Bon, d'abord, je ne dis pas que les concertations n'ont pas atteint leur but. Et en fait, j'aimerais aussi préciser le fait que la majorité, l'AMP, est même naïve sur ce point-là, en se laissant mener en bateau par l'opposition qui ne peut plus tenir 3 ans jusqu'aux élections de 2006. C'est l'opposition qui veut le gouvernement d'union nationale. La majorité ne veut pas d'élections. La majorité est convaincue que si elle reste soudée telle qu'elle est là-bas, en 2016, cette opposition échouera de la même façon. Je l'ai plus d'une fois dit. On peut refaire les élections 100 fois avec cette opposition telle qu'elle est là-bas. On la battra et donc la majorité actuelle battra cette opposition même 100 fois. Mais elle n'a aucune stratégie, rien ne peut montrer que cette opposition peut gagner les élections, à part créer des situations. Mais, ma chère, mettre fin à la crise, c'est qu'on mette fin à transformer la politique en messianisme. Vous dites que vous avez gagné les élections, mais démontrez que vous avez gagné les élections. Vous demandez aux gens, croyez seulement que moi j'ai gagné les élections et revenez, donnez-moi le pouvoir. Mais ça ne se fait nulle part. Ce messianisme politique n'appartient qu'à ceux qui ont adhéré, de gens qui prêchent ça comme le Moussang ou le consort. Mais, dites, mes chers amis, vous êtes intellectuels. Aujourd'hui, la vérité des urnes, elle est où? À part celle proclamée par la CENI, celle proclamée par la Cour suprême de justice, et qu'il y a des voies de contestation. La contestation est constitutionnelle, parce qu'ils sont garants de la, ils sont tenants de la Constitution. La Constitution montre les mécanismes pour contester. Ce n'est pas dans des discours, tralala, la vérité des urnes pour créer l'écran de fumée afin d'empêcher que ce pays aille de l'avant, afin que vous ayez les occasions de dire qu'on n'a rien fait parce qu'on était dans...
Mais Diane, est-ce que les concertations ont atteint leur objectif?
Les concertations jusque-là, en ce qui me concerne, j'ai suivi beaucoup de recommandations qui sont de redites. Mais j'ai retenu quand même 2 recommandations importantes qui peuvent améliorer quelque chose. La recommandation qui demande clairement qu'on sépare le ministère de la Jeunesse du ministère des Sports et ainsi de suite. Ça était toujours... Parce qu'en fait, vous savez ce que c'est la jeunesse dans un pays. On n'arrive nulle part sans sa jeunesse. Aujourd'hui, il y a peut-être l'UDPS qui a sa jeunesse, le Palou qui a sa jeunesse, le PPRD qui a sa jeunesse. Mais la jeunesse congolaise, elle n'est pas là. Elle n'est pas encadrée. Donc, l'avenir du Congo, quelqu'un disait à si bon titre... Si vous voulez savoir ce que sera demain ce pays, il faut se dire ce que nous faisons aujourd'hui de sa jeunesse. Mais qu'est-ce qu'on fait de la jeunesse? Je pense que c'est une bonne recommandation. Il y a encore une recommandation lorsque les concertateurs sont allés retirer, c'est bon, une recommandation de Kabila, je crois, lors de son discours d'investiture. Et il y est revenu lors de les états généraux des chefs coutumiers au Bandundu, le regroupement des villages. Tant que nous aurons ce petit village, vous allez, on vous parle de Benamande, chez Moussango, chez qui, vous allez vous trouver un petit village de 3-4 cases. Mais vous allez développer ces 3 cases quand? Donc, il faut regrouper les villages, mettre les intelligences ensemble, mettre les moyens ensemble. On peut créer des infrastructures qui peuvent. Ça, voilà une bonne recommandation qui est sortie. Le reste, parler de Bemba, ce sont des gens qui veulent politiquement se justifier à l'opinion. Nous étions là, nous avons plaidé pour Bemba, et ainsi de suite. Mais je pense qu'il n'y a que 2 résolutions qui me tiennent à cœur, ce sont celles.
Merci, Joaquin Diane. Charles Mukendi, selon vous, est-ce que les concertations ont atteint leurs objectifs?
Non, même les concertateurs sont conscients qui n'ont pas atteint l'objectif. Et c'est difficile qu'ils l'atteignent dans les conditions où ils sont allés. Et la cohésion nationale, et on a laissé, mais pour la classe politique, en dehors beaucoup d'autres personnes. C'est comme en 1993-94, par là, quand on a organisé encore les concertations nationales, après la conférence nationale souveraine, on en est arrivé à des concertations, on en a entendu parler. Et qu'est-ce que ça a produit? Après 3 ans, on a eu un coup d'État, ou plutôt la rébellion qui est venue de l'Est, et on a balayé le gouvernement de Mobutu. Donc les concertateurs eux-mêmes sont conscients qu'ils n'ont pas atteint l'objectif.
Oui, mais qu'aurez-vous proposé comme plan pour la sortie de la crise?
Écoutez, il y a beaucoup de problèmes, mais la grande fracture qui existe dans notre société, c'est entre la classe politique qui n'en fait qu'à sa tête et les autres, le peuple qu'il dirige. Et le gouvernant n'écoute pas suffisamment le peuple. Et on arrive là-bas, chacun en fait à sa manière, on ne tient pas compte du peuple. La réconciliation nationale, ça doit venir avec le peuple. Écoutez ce que le peuple dit. On dit là-bas que on a gagné les élections, tout ça. Mais pourquoi on est en concertation? Parce qu'on a les institutions, parce qu'on a le Parlement, parce qu'on a le gouvernement. Pourquoi ne pas continuer? Allez-y, continuez jusqu'en 2016. Si vous n'avez pas pu continuer, c'est que ça veut dire que vous êtes bloqué quelque part. Vous appelez, c'est que disait qu'ils sont à l'extérieur. On dit, bon, concertation, non, j'ai déjà entendu, la conférence nationale a proposé beaucoup de choses. Dans ce pays, on n'a plus besoin des discours, on a souvent des mots qu'il faut appliquer simplement. Et il n'est pas besoin d'aller dans des conciliabules, dans des petites réunionnettes pour trouver des solutions. Ils savent bien qu'ici, il faut seulement appliquer ce qui est déjà là dans la loi congolaise.
Merci Charles Mukendi. Sans transition, nous passons à notre deuxième sujet de ce soir. La société civile du Nord qui vous dit non à une quelconque intégration des éléments du M23 au sein de l'armée régulière. Une position contenue dans une lettre adressée à Madame Robinson, envoyée spéciale du secrétaire général de l'ONU pour la région des Grands Lacs, et Martin Kobler, représentant spécial du secrétaire général de l'ONU en RDC, et publié à Goma en début du week-end dernier. Cette organisation citoyenne attire l'attention sur le danger que pareille initiative représente. D'après elle, je cite, une intégration de ce genre consacrerait l'impunité flagrante des crimes de guerre, crimes contre l'humanité et d'autres graves violations des droits humains perpétrées par les criminels du M23. Fin de citation. Omar Kavuta, porte-parole de la société civile du Nord Kivu, rejette ainsi l'idée d'amnistier et d'intégrer tous les rebelles du M23 dans l'armée telle qu'avancée par le président ougandais.
Notre coordination a appris de la proposition par le président ougandais d'une solution à la burundaise, c'est-à-dire l'octroi d'une amnistie générale à tous les éléments du M23 pour leur intégration ensuite au sein des FRDC. Notre coordination attire l'attention de Mme Robinson et de M. Martin Kobler sur les dangers que pareille initiative représente. Une intégration de ces genres consacrera sans doute l'impunité flagrante des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité et d'autres graves violations des droits humains perpétrées à cœur joie par les criminels du M23. Il est clair pour la population du Nord Kivu que la rébellion du M23 est composée essentiellement de criminels, des militaires rwandais et ougandais qui cherchent à infiltrer à nouveau l'armée congolaise à vue de continuer à fragiliser la réforme de l'armée entreprise par le gouvernement et poursuivre le plan de balkanisation.
Fidèle Moussango, comment vous analysez cette réaction de la société civile?
C'est ça, la vraie société civile. Ils sont, les animateurs sont sous les lieux. Ils connaissent le problème. Ils connaissent ce complot international avec des relais à Kinshasa. Kagame, Museveni sont dénoncés, sont humiliés, sont devenus infréquentables. Maintenant, c'est comme des noyés qui cherchent à s'accrocher à n'importe quel roseau. Mais dis, combien de fois on va intégrer ces gens-là? On les a eu avec l'AFDEL ici. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Quand Laurent Désiré découvre qu'il y a un complot contre lui, il déchire l'alliance militaire avec le Rwanda. Il faut un aller-retour. Il va à Goma, ils prennent en otage des avions civils, ils mettent des militaires pour venir faire un raid à Kitona. C'est une violation du droit humanitaire international. Ça, ils répondront un jour. Deuxième élément, ils commencent à créer leur cède. Toujours, nous cherchons les intérêts. Mais vous voulez les occuper, vous? En fait, ils viennent prendre le pouvoir ici. Et l'RCD pendant 5 ans, c'était l'armée rwandaise. Moi, j'ai fait le tour de nord-sud Kivu, Maniema, pendant. C'était des militaires rwandais, la première job là. Ils n'ont pas fini ces problèmes militaires. C'est toujours le protestant. Quand ils sont coincés, quand on les prend la main dans le sac. Maintenant, quand on les prend, les experts de l'ONU, Human Rights, International Crisis Group, tous ils disent, et les correspondants des médias étrangers vous disent, c'est des militaires rwandais. On a eu la preuve éclatante avec Taganda, avec Kunda. Kunda, on vient le chercher, on l'amène chez lui. Quand on veut lancer notre citoyen rwandais, et il sort. C'est comme Taganda. On le prend, il arrive à la haie. Oh, je parle Kinyarwanda. Vous avez vu un officier Congolais qui parle Kinyarwanda? La langue des officiers supérieurs, c'est le français. Et le Lingala, c'est la langue de l'armée. Lui, il va plaider à Kinyarwanda. Il connaît même pas le français. Donc, c'est un ancien gardien des vaches qu'on a élevé au rang de général. Un criminel dans l'Ituri, qu'on a protégé pendant un temps. Bref, ces gens-là aujourd'hui, c'est le Rwanda qui veut infiltrer les systèmes sécuritaires congolais pour empêcher le pays de décoller. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Quand on les interroge, ce qu'ils font? Ils refusent de venir à Kinshasa, même pour la prison. Ils restent à Masisi, Rutshuru, parce que ce sont des Rwandais. Alors, on a des preuves éclatantes que ce sont des militaires rwandais, et Kagame veut les intégrer pour continuer à perpétuer la paix, à perpétuer les crimes de guerre, là, dans l'Est. Alors, là, on a dit, merde, on arrête. Il n'y a pas que nous. Ban Ki-moon l'a dit. Marie Le Monsieur l'a dit. Le ministre, tout le monde a. Donc, on ne veut plus de gens-là. Qui n'ont qu'à rentrer chez eux au Rwanda. Et le M23 qui n'a plus de cahier des charges. tout ça a été aboli. Mais comme nous sommes complices ici, le régime de Joseph est complice, ils vont négocier à Kampala pour négocier avec une force négative.
Merci.
Pourquoi est-ce que le Kagame refuse de négocier avec sa force négative, l'Abdelé? Pourquoi Museveni ne négocie pas avec John Kone? Le Congolais, vous devez négocier. Mais c'est une force négative. Comme la nous. Non, non. Alors, ça veut dire qu'ils savent que Kagame et Museveni savent qu'ils ont leur relais ici.
Joachim Diana, est-ce que vous pensez que cette solution soit adaptée aux réalités de la RTC?
La société civile refuse cette solution à la burundaise que propose le président ougandais. Vous savez que le président ougandais est en train de confondre le rôle de médiateur avec le rôle de décideur. Lorsqu'on vous dit vous êtes médiateur, vous ne décidez pas. Mais monsieur Museveni se met en tête qu'il est, je ne sais pas, le proconsul du Congo ou quoi, il a le droit de donner des injonctions au Congo. Il se trompe. Il a ce rêve-là sans doute, mais ce rêve ne deviendra jamais réalité. Impliquer ces gens-là dans le même, c'est une histoire qui concerne les Congos. Et les Congos, cette fois, le gouvernement congolais a été clair, la liste a été claire qu'il n'y aura pas d'amnistie générale pour ces gens-là et il sera tenu. Et ça serait étonnant qu'aujourd'hui le gouvernement congolais l'accepte du moment où ce matin tout le monde a suivi et les médias périphériques, au moment où la logique américaine est tout à fait claire. L'Amérique ne donne pas son cite les trois pays auxquels il ne va plus donner son aide militaire. Ce sont des pays qui recrutent des enfants soldats. Le Soudan, il cite aussi le Rwanda. Les trois pays, le Rwanda. Le Rwanda, et la logique est claire. Le Rwanda, c'est à travers le M23. Parce que même les États-Unis d'Amérique connaissent que le M23, c'est le Rwandais. Et donc, quand le M23 recrute des enfants soldats, c'est l'armée rwandaise qui recrute. Donc, on ne lui donne pas l'aide. Et aujourd'hui, nous allons dire que non, M23 est congolais, on l'intègre. Parce que le souci de Kagame, de Museveni, c'est d'avoir toujours un cheval de Troie dans l'armée congolaise. Et ça ne se fera plus jamais.
Charles Mukendi, comment vous analysez cette prise de position de la société civile du Nord Kivu?
En fait, c'est l'alternative qu'il faut en ce moment, c'est la société civile qui doit prendre les choses en main. La société civile congolaise doit suivre les pas de la société civile du Nord Kivu. C'est maintenant les citoyens qui contrôlent la situation parce que, en fait, les politiciens, ils ont montré les limites. Ils sont devenus, et depuis toujours, tout simplement des relais de l'extérieur. Et vous comprenez que le confrère Fidel a dit que c'est le gouvernement rwandais qui est derrière tout ça. Mais moi, je dis plus, je dis que c'est autant de puissances étrangères qui ont décidé depuis un certain temps que les Congos doivent être balkanisés. Et on connaît, c'est une messe qui se dit ailleurs, à l'extérieur, ils trouvent que le Congo est trop vaste et que ça empêcherait leurs intérêts économiques ou quoi. Ils tiennent à balkaniser le Congo, alors que les Congolais, on ne consulte pas comme en 1885, quand Léopold II a su là-bas, ils ont découpé sans consulter le peuple, et pour leurs propres intérêts. Il y a un ami, un professeur, j'ai dit l'abbé Apollinaire Tshibaka, qui parlait du Congo qui a été conçu pour le mal par le roi des Belges. Il a conçu le Congo pour ses intérêts personnel. Et aujourd'hui, encore une fois, les gens, assis quelque part, sont en train de concevoir des plans pour notre pays et ils veulent le balkaniser. Il n'y a que, en fait, la prise de conscience des Congolais, de la société civile, qui peut constituer une alternative.
Charles Mukendi, il nous reste moins de 5 minutes pour terminer l'émission. Je vous demande déjà de conclure.
Voilà, j'ai dit que j'encourage beaucoup la société civile du Nord Kivu et j'invite toute la société civile congolaise à emboîter les pas pour être vigilant, pour voir de quel côté ça peut venir la balkanisation du Congo parce que nos ennemis sont à l'extérieur. L'essor de notre pays s'est décidé depuis 1885 à Berlin. On a décidé de découper et aujourd'hui on continue à faire la même chose comme si nous, Congolais, nous étions des objets. C'est pas possible, nous ne sommes pas des objets. C'est notre pays, nous devons nous déterminer comme la société civile le fait.
Oui, Fidel Moussangou, en guise de conclusion, qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ce sujet, puisqu'il nous reste moins de 3 minutes?
Première chose, ces fameuses concertations nationales, c'est la vaste comédie. Une conspiration internationale avec des relais locaux pour distraire les Congolais. Entre-temps, les choses graves se passent à l'Est. Malheureusement, les populations de l'Est sont vigilantes. Chaque fois qu'il y a un Rwandais qui dit, ils en est. Alors, je demande à ces Rwandais-là de rester chez eux. Qui, même s'ils ont des complices au pouvoir actuel, ces complices vont partir un jour. Alors, je crains tous ces faux Rwandais, des Rwandais qui aiment le Congo congolais, ils partiront comme ils sont venus. Ce n'est pas la première fois qu'ils essaient d'infiltrer le Congo, c'est depuis le 19e siècle. Deux, je demande à la classe politique, surtout à ceux qui se disent opposants, de cesser de jouer à ce jeu là-bas, qui va leur coûter cher un tout plus tard, parce que le peuple ne l'oublie jamais. Deuxième élément, c'est à propos de cette affaire de Museveni là-bas. Mais c'est quelqu'un, c'est un condamné, c'est un éligible, il est éligible à la CPI, alors il commence à toucher un peu partout, comme dit le proconsul. Évidemment, il sait qu'ici dans le régime, il a ses affidés. Alors, il se comporte comme un proconsul. Mais il a échoué, et il échouera toujours. Il ira à la CPI également. Donc, il perd son temps. On ne touchera pas un seul mètre carré du Congo. Même, quel que soit le comploté ici, on ne touchera pas à un seul mètre carré du Congo. Le Rwanda ne prendra pas. Les Rwandais, ils n'ont qu'à rentrer chez eux. Nous sommes des voisins. Et nous avons du sang ensemble. Ils peuvent vivre, ou bien venir au Congo comme Congolais, demander la nationalité ouvertement.
Joachim Diane, nous terminons avec vous une conclusion.
Oui, j'aimerais dire ceci en ce qui concerne les concertations, que appeler les Congolais à se réunir, conformément aux prérogatives de l'article 65 de la Constitution, est un droit pour le chef de l'État. Et ce n'est pas parce qu'il est coincé qu'il appelle, c'est parce qu'il gère ce pays et qu'il a trouvé cette une autre façon de trouver la solution. Et que si vous ne vous reconnaissez pas dans ce gouvernement, vous ne reconnaissez pas dans le pouvoir qui est fait, mais ne menacez pas ceux qui sont là-bas. D'ailleurs, vos menaces, ce ne sont que de menaces en l'air, parce que vous n'avez aucun pouvoir, vous-même vous cherchez l'impérium, sans impérium vous menacez les gens, et quand vous l'aurez. Alors c'est pour dire que on doit faire très attention, surtout avec les civils qui viennent sous prétexte que ce sont des réfugiés rwandais congolais qui seraient rentrés. Bientôt le M23 va les massacrer et va dire que c'est l'armée congolaise qui les a massacrés. On va exhiber les images à la télévision. Je pense que ce sera le schéma. Retenons cette date et on me donnera raison.
Merci Joachim Diane. C'est avec vous que nous terminons cette émission. Je rappelle que vous êtes éditeur du journal La Colombe, un quotidien qui paraît à Kinshasa. Nous étions également avec Fidèle Moussango, coordonnateur du journal Le Phare, un quotidien qui part à Kinshasa, et Charles Mukendi, rédacteur en chef de la radio-télévision des Bukassai, émettant depuis Mbujima au Kasaï oriental. La partie technique de cette émission était assurée par Paul Badianyam. Alain Rung était à la réalisation. Samuel Kachak vous a présenté cette émission sous la supervision de Martin Sebouchangoué. La rediffusion de cette émission, c'est demain matin à 4h15 heure de Kinshasa. Merci et bon week-end sur la radio Okapi.